Les actualités du sel, Daniel Hillion, au micro de David Alonso.
Nous nous retrouvons pour notre émission mensuelle des actualités du sel, aujourd'hui avec Daniel Hillion. Bonjour Daniel.
Bonjour David.
Tu voulais nous sensibiliser à une question qui aujourd'hui est assez complexe et qui nous concerne autant en Europe que dans les pays du Sud, c'est la protection des enfants. Notre partenaire Compassion a décidé de travailler sur ce sujet et déploie donc depuis maintenant plusieurs mois une approche spécifique de protection des enfants. On voulait en savoir plus. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce que c'est la protection des enfants pour notre partenaire de parrainage Compassion ?
Oui, le sujet de la protection des enfants, c'est un sujet très important pour Compassion depuis très longtemps, et pour le sel aussi par conséquent. Et Compassion, dont nous faisons partie pour le parrainage, a lancé tout un chantier étalé sur de nombreuses années pour améliorer la protection des enfants qui sont pris en charge dans les centres d'accueil de parrainage. Ce que je voudrais peut-être dire pour commencer notre entretien sur ce sujet, c'est de citer une parole d'un responsable de Compassion qui est chargé des programmes et qui dit ceci: « Nous voyons la protection des enfants comme quelque chose de fondamental et d'essentiel pour libérer les enfants de la pauvreté au nom de Jésus. Si un enfant n'est pas protégé, tous les aspects de sa vie sont affectés. » Aucun enfant ne peut bien progresser dans le domaine de l'éducation, de la santé, de la sécurité ou dans le fait d'avoir de bonnes relations s'il a tout le temps peur d'être victime d'abus.
Alors cette définition me semble tout à fait pertinente, mais assez globale. De quel type de protection on parle ici ?
Alors, on est en train de parler de la protection des enfants face aux abus et plus spécifiquement de la prévention face aux abus et de la réponse aux abus quand il s'agit d'abus dans les interactions personnelles que l'enfant peut avoir. Alors les abus, on parle de toutes sortes d'abus, on parle d'abus physiques, on parle d'abus sexuels, on parle d'abus émotionnels, on parle aussi de négligence parce que la négligence est une forme d'abus. On parle d'exploitation ou de pratiques culturelles nuisibles.
Donc ici, on parle principalement donc d'abus de personne à personne.
Voilà, donc par exemple, un enfant qui habite dans une habitation insalubre, c'est un enfant en danger, mais on n'est pas en train de parler de la protection contre ce type de danger. On peut aussi considérer que certains systèmes politiques ou économiques ont des conséquences désastreuses pour les enfants, mais c'est pas non plus de ce type de protection de l'enfance que nous sommes en train de parler, mais nous sommes en train de parler de protection contre les abus que les enfants peuvent rencontrer dans leurs interactions quotidiennes, à la maison, à l'école, à l'église, dans leur voisinage, et parce que quand même, c'est ça qui nous intéresse aussi, dans le cadre des centres d'accueil.
Pratiquement, comment une telle approche se déploie ?
Alors pratiquement, l'un des outils qui a été mis en place par Compassion, c'est un code de conduite qui fixe les attentes à l'égard de chacun. Alors chacun, c'est qui ? C'est principalement deux catégories de personnes. C'est soit des personnes qui vont directement entrer en contact avec les enfants parrainés, donc par exemple le personnel des centres d'accueil, mais aussi les parrains et marraines qui vont visiter leur filleul, mais aussi le personnel du SEL ou de Compassion qui va sur le terrain, par exemple pour filmer un centre d'accueil. Donc d'une part, les gens qui sont en contact direct avec les enfants, et puis d'autre part, les gens qui ont accès à des données sur les enfants. Alors, pas n'importe quelle donnée, vous êtes quelqu'un qui assiste à un concert où il y a des dossiers d'enfants parrainés sur un stand, vous avez accès à des données, mais ça, ce sont des données suffisamment générales pour qu'il n'y ait pas de risque. Par contre, si vous avez accès, par exemple, à la base de données du SEL, ça peut être le cas de certains prestataires, ou bien alors si vous avez accès aux lettres des enfants parrainés, comme c'est le cas de bénévoles traducteurs, eh bien, le code de conduite est aussi pour vous.
Comment ce code de conduite se met-il en œuvre concrètement ? Tu peux nous donner des exemples sur lesquels tu as déjà réfléchi ?
Oui, alors le code de conduite, il ne donne pas simplement la grande philosophie de la protection des enfants, mais il rentre dans un certain nombre de détails pour expliciter très clairement les comportements qui sont des comportements admis et recherchés même, et puis les comportements qui sont interdits. Par exemple, un type de comportement important pour le cadre du parrainage, c'est que on veut avoir des attentes appropriées à l'égard des enfants en fonction de leur âge. Le code de conduite donne comme exemple le fait que un enfant de 3 ans qui fatigué et pas capable de tenir ses nerfs, c'est normal. Par contre, un adolescent parrainé, on attend de lui autre chose. Et donc, on sensibilise le personnel du centre d'accueil à avoir des attentes qui sont adaptées à l'âge et à la situation dans laquelle se trouve l'enfant. Ça, c'est un exemple. Un autre exemple, c'est que il a été décidé que dans le cadre des programmes de parrainage, les châtiments corporels, c'était inapproprié dans tous les cas. Dans les centres d'accueil, il est interdit d'user de châtiments corporels à l'égard des enfants parrainés.
Comment cela peut-il concerner, par exemple, un parrain qui va visiter son filleul ?
Alors, le parrain qui va visiter son filleul, il doit se plier à certaines règles qui, peut-être, dans certains cas, peuvent lui sembler un peu contraignantes, mais on assume, parce qu'on pense que c'est suffisamment important pour que ces règles soient posées. Exemple, à aucun moment, un parrain ne peut se retrouver seul avec l'enfant qu'il parraine dans un lieu fermé. Il faut qu'il ait des interactions avec l'enfant qu'il parraine dans des lieux ouverts, dans la cour du centre, par exemple. Ou alors, si vraiment c'est dans une pièce fermée, il faut qu'il y ait un autre adulte avec lui, et pas n'importe quel autre adulte. Un adulte autorisé, par exemple, un membre du personnel du centre d'accueil.
Ça veut dire qu'un parrain ne peut pas se retrouver seul avec son filleul.
Ah non, ça c'est interdit. Et en fait, il faut aussi penser que c'est quelque chose qui est une mesure de protection pour les enfants parrainés. Nous pensons que l'immense majorité de nos parrains sont des gens très bien et il n'y aurait pas de problème avec eux. Mais pour l'infime minorité qui peut poser problème, il faut fixer des règles. Mais d'autre part, c'est aussi une mesure de protection pour le parrain. Parce que on ne sait pas, dans certains cas, se retrouver seul avec l'enfant ou avec sa famille, c'est peut-être être exposé à des demandes de soutien financier qui ne sont pas appropriées.
Justement, en parlant de demandes de soutien financier, est-ce que ce n'est pas un des risques lorsqu'un de nos filleuls contacte son parrain sur Facebook, par exemple ?
C'est tout à fait un risque, et c'est pour ça que on a une règle pour ça aussi. Et la règle pour ça, c'est que si vous parrainez un enfant avec le sel et que un jour vous recevez une invitation « Devenez mon ami » sur Facebook de la part de votre enfant parrainé, ou alors de la part d'un membre de sa famille, il faut refuser.
Comment ça se passe au niveau des courriers ? Cette règle s'applique aussi dans l'autre sens, donc de ce que le parrain envoie à son filleul. Comment est-ce que ça s'applique au niveau de nos traducteurs, par exemple ?
Oui, les traducteurs jouent un rôle clé dans la correspondance entre les parrains et leurs filleuls, parce que dans beaucoup de cas, sans les traducteurs, la communication est impossible. Donc, on bénéficie vraiment de tout le travail de ces dizaines et dizaines de traducteurs bénévoles en France, et aussi de ceux qui sont engagés sur ce sujet sur le terrain. Et les traducteurs bénévoles ont été sensibilisés à un certain nombre d'exemples sur lesquels ils doivent prévenir le sel dans le cas où ils le trouvent dans les courriers. Je veux dire, s'il y a certaines allusions malsaines, par exemple sur le plan sexuel, hein, qui peuvent apparaître dans certains courriers, il faut immédiatement le dire. Des questions liées à l'argent devraient aussi nous être remontées. Quand il y a quelque chose qui sonne un petit peu problématique, ça fait partie de la responsabilité du bénévole de le faire remonter au sel.
Là, on parle beaucoup d'une protection autour de l'enfant, mais est-ce que ça fait partie aussi du processus d'aider l'enfant à se protéger lui-même, à prendre en charge, en fait, une partie de cette responsabilité ?
Alors, je veux répondre oui à cette question, mais avant de répondre oui, je veux souligner quelque chose qui est évident, mais qui demande quand même à être dit. C'est que quand l'enfant est victime d'abus, c'est pas sa faute, c'est la faute de celui qui est l'abuseur et qui est l'agresseur. Et donc, il s'agit pas de dire, quand on dit l'enfant a une responsabilité, de vouloir faire baisser la responsabilité de l'agresseur, mais plutôt de se dire que dans un processus de protection des enfants, l'un des éléments clés, c'est aussi d'aider l'enfant à savoir réagir quand il est dans une situation pas nette pour pouvoir contribuer à se protéger lui-même. Alors, je donne un exemple. Compassion au Honduras a adopté une stratégie qui est intitulée « En jouant, nous devenons plus forts ». Et les enfants parrainés ont été ainsi équipés pour identifier les agresseurs et signaler immédiatement les cas d'abus, que ce soit dans la famille, à l'école, à l'église, dans le voisinage. Et il faut savoir que la taille de Compassion, c'est énorme. Donc, c'est 45 000 enfants et jeunes qui ont bénéficié de cette initiative. Et ça a fait baisser le nombre d'abus. Je dis juste en quelques mots en quoi ça consiste. C'est une stratégie avec des jeux, des chansons, des puzzles, des danses, des jeux de rôle, des spectacles de marionnettes. Et ça apprend à l'enfant à faire entendre sa voix, alors que l'agresseur, c'est quelqu'un qui cherche à le faire taire.
On considère là qu'on est dans une action de sensibilisation.
C'est tout à fait une question, une action de sensibilisation. C'est aussi quelque chose qui, des fois, permet au personnel du centre d'accueil de se rendre compte que si les abus d'enfants, ça existe dans leur entourage à eux aussi. Et c'est une question de culture, au fond. C'est pas uniquement nous voulons techniquement, dans le cadre de tel centre d'accueil, éviter les abus concernant les enfants, mais c'est plus de se dire, en tant que chrétien, nous pensons que la protection des plus faibles, ça fait partie des valeurs que nous voulons promouvoir. Et donc, si on peut augmenter le niveau de conscience des chrétiens sur les questions d'abus d'enfants, que ça aille au-delà des questions du parrainage, et ce sera tout gagné.
Merci Daniel. On va passer aux actualités du CEL dans les semaines qui viennent. Nous avons bientôt une campagne projet qui va arriver dans les boîtes aux lettres et sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ?
Alors oui, d'abord plutôt pour vous mettre en appétit, il faut que vous soyez attentifs à ce qui va arriver dans les prochains jours et les prochaines semaines, parce que nous allons parler autour des questions de reboisement, de protection de la terre, tout ça en lien avec des projets d'agriculture et de sécurité alimentaire. Le CEL a des partenaires en Afrique subsaharienne francophone qui sont très engagés dans les questions agricoles et qui ont des choses à dire sur une agriculture respectueuse de l'environnement et qui permet à la fois de permettre aux agriculteurs de mieux vivre et à leur environnement d'être respecté, voire restauré.
Donc ça arrive d'ici quelques semaines dans les boîtes aux lettres et puis dans nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Merci Daniel pour ce moment.
Merci et au mois prochain.